7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
8h, toutes les infos de ce mardi 9 avril 2024.
Créer des soins palliatifs pour les enfants malades. Aujourd'hui, aucune unité dédiée n'existe en France. Un tabou sur lequel soignants et gouvernements veulent revenir. En Vendée, sécurité renforcée à l'hôpital de Challans après l'agression d'un brancardier. Quel rôle ont les États dans le changement climatique? La Cour européenne des droits de l'homme se prononce ce matin dans une décision très attendue. Et la culture, première victime des coupes budgétaires, le spectacle vivant redoute des annulations.
Après ce journal, les européennes, dans 2 mois, c'est parti pour la valse des sondages, comme avant chaque élection. Ce sera l'édito politique de Guillaume Tabar à 8h10. 8h15, un économiste interroge notre rapport au temps et à ce que nous en faisons. Pierre-Noël Giraud, auteur du livre Du pain et des jeux, une économie politique des usages du temps chez Odile Jacob. Il est avec nous en direct. 8h30, ce sera la revue de presse de Marc Tédé. Diane Berger, le gouvernement présente demain son projet de loi pour la fin de vie et les soins palliatifs.
Sur ce deuxième point, la question des soins palliatifs, le plan prévoit un peu plus d'1 milliard d'euros de budget supplémentaire sur 10 ans, car actuellement, seuls 50% des adultes qui en auraient besoin ont accès à ces soins. Et pour les enfants, ce chiffre tombe même à 30%. Pour y remédier, le ministère de la Santé veut créer 2 unités de soins palliatifs pédiatriques cette année. Pour l'instant, aucun hôpital n'est doté de ces services sur le territoire français, Anna Huot.
Pour le moment, ce qui existe, ce sont des équipes ressources de soins palliatifs pédiatriques, composées de différents professionnels, médecins, infirmiers, assistants sociaux. Ces équipes se déplacent aussi bien dans les hôpitaux qu'au domicile des familles, avec pour objectif d'aider des enfants atteints de maladies graves, évolutives et incurables à poursuivre leur vie. Mathias Ciel, président de la Société française de soins palliatifs pédiatriques.
Les soins palliatifs, c'est pas la fin de vie. Les soins palliatifs, ça s'adresse à des enfants qui sont menacés dans leur survie. Pour vous dire, le plus ancien patient qu'on accompagne ou la famille qu'on accompagne, on la connaît depuis 2012.
Et l'accompagnement est d'abord celui de l'équipe médicale qui suit l'enfant.
On peut tout à fait se faire des réunions collégiales pour chercher le meilleur traitement adapté à la situation. Ce n'est pas l'agressivité médico-technique qui améliore le traitement. Parfois, il faut mieux faire un peu moins, mais tolérer et accepter par l'enfant que faire trop agressif et du coup faire plus de dégâts que du bien.
Mais accompagner, c'est aussi faciliter le quotidien de cet enfant, explique Isabelle Le Tourneur, puéricultrice au sein de l'équipe ressources de Rennes.
La toute première chose que l'on fait lorsqu'on rencontre une famille, c'est de déterminer avec eux quel est le projet de vie qu'ils souhaitent. Est-ce que c'est le maintien de la scolarité? Est-ce que ça va être un rapprochement familial? Est-ce que ça va être aménager le domicile si l'enfant est en perte d'autonomie?
Et pour ces professionnels, il est urgent de lever le tabou sur les soins palliatifs pédiatriques pour pouvoir recruter davantage et consolider les équipes ressources.
C'était un sujet d'Anna Huot. En Vendée, l'hôpital de Challans renforce sa sécurité après l'agression d'un brancardier. Le soignant a été passé à tabac samedi dernier au service des urgences, visiblement par des personnes énervées par le temps d'attente, et l'émotion est vive dans le personnel. Sylvain Battard, aide-soignant dans cet hôpital et représentant du personnel pour la CFDT, nous décrit la situation.
Il a été décidé de poster une personne de sécurité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et puis, il va y avoir quelques sécurisations. Par exemple, il y a une porte qui sera sécurisée pour qu'il n'y ait plus un accès libre aux patients ou familles de patients qui attendent dans la salle d'attente. Donc voilà, il y aura seulement les soignants qui pourront activer cette porte pour l'ouverture. Ce sentiment de sécurité va être un petit peu augmenté, mais les agents restent très très marqués. Donc pour reprendre confiance, va falloir un petit peu de temps, quoi.
Une enquête est ouverte et le suspect est toujours en fuite.
La planète franchit chaque mois de nouveaux records de température.
C'est encore le cas au mois de mars 2024, selon les derniers relevés de l'Observatoire européen Copernicus. Il s'agit du mois de mars le plus chaud jamais enregistré. Et dans ce contexte, la Cour européenne des droits de l'homme rend ce matin une décision très attendue. Les gouvernements européens sont-ils, oui ou non, coupables d'inaction climatique? Cela fait suite à 3 affaires. L'une d'elles émane de l'ancien maire de Grande-Synthe, l'eurodéputé apparenté écologiste Damien Carême. Il a déjà réussi à faire condamner l'État français 2 fois au Conseil d'État, mais cela n'a pas suffi et il espère cette fois-ci forcer la France à agir.
Nous, ville de Grande-Synthe, on faisait notre part à la lutte contre le réchauffement climatique sur nos compétences. Et en fait, celui qui manquait au rendez-vous dans le cadre de ses compétences, c'est l'État français, et qui ne respecte pas les engagements de l'accord de Paris. Voilà ce qui a motivé mon action, et à titre individuel. Moi, je suis devenu asthmatique en vivant là-bas, et on le voit bien sur ce territoire. territoire. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui souffrent de problèmes pulmonaires. Là, si la Cour européenne rend un jugement favorable, ça voudrait dire qu'on place le droit à vie dans un environnement sain en haut de toutes les décisions politiques qui pourraient être prises dans les différents États membres de l'Union européenne. Et ça, c'est fondamental pour arriver à contrecarrer les effets du changement climatique sur ce territoire.
L'eurodéputé Damien Carême avec Lauriane Toulmont.
Le Hamas affirme étudier un projet d'accord de trêve à Gaza.
Il impliquerait 6 semaines de cessez-le-feu, la libération de 42 otages contre 800 à 900 Palestiniens détenus en Israël. Une annonce alors qu'Israël menace toujours de mener une grande opération militaire sur Rafah, au sud de la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou a annoncé hier qu'une date a été fixée et dans une tribune parue dans 4 journaux, notamment en France dans Le Monde, Emmanuel Macron, Abdel Fattah al-Sissi, le dirigeant égyptien, et Abdallah II de Jordanie dénoncent cette possible offensive. Elle ne ferait, je cite, qu'entraîner une menace d'escalade dans la région. En Ukraine, la centrale de Zaporijjia a à nouveau visée hier par une attaque de drones. Russes et Ukrainiens s'en sont renvoyés la responsabilité. Et les autres installations énergétiques de l'Ukraine ne sont pas épargnées. Ces dernières semaines, des frappes russes ont visé 80% des centrales thermiques et la moitié des centrales hydroélectriques du pays. Une stratégie qui ne surprend pas Emmanuel Galichet, enseignante-chercheur, spécialiste du nucléaire au Conservatoire national des arts et métiers.
L'approvisionnement électrique est de toute façon stratégique. Les personnes qui font ça, ils veulent vraiment mettre à terre le pays en tapant comme ça sur les infrastructures énergétiques. Vous réduisez un pays à être obligé de demander un arrêt de guerre, quoi. C'est pas viable. Un pays ne peut pas supporter un manque d'approvisionnement électrique, ça c'est sûr. Si vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez plus de communication, par exemple. Donc vous fermez totalement le pays, aussi bien de l'intérieur que vers l'extérieur.
La spécialiste du nucléaire, Emmanuel Galichet.
La culture, victime des coupes budgétaires.
Le gouvernement présente aujourd'hui sa stratégie au Haut Conseil des Finances Publiques pour réduire le déficit de la France. Et on connaît déjà certains arbitrages. 200 millions d'euros de crédits annulés pour le ministère de la Culture, dont la moitié concernant la création artistique. Zoé Pallier, les théâtres et les compagnies craignent donc des annulations de spectacles en cascade pour la saison prochaine.
Il y aura sans doute moins de danseurs sur la scène du théâtre Chaillot l'an prochain. Son budget est amputé de 500 000 euros. On ne pourra pas maintenir toute la programmation, alerte Pierre Longheretti, son directeur délégué.
Les hypothèses, c'est à la fois une réduction du nombre de spectacles et de représentations pendant une saison, c'est aussi moins de prise de risque. Les choix qu'on va faire risquent de se porter sur des compagnies à forte visibilité, à même de générer le maximum de recettes. Donc il y a ce type d'effet pervers sur les compagnies émergentes qui ont le moins de visibilité.
Mais la crise n'épargne pas non plus les gros spectacles, ceux qui coûtent cher, avec des dizaines d'artistes et des décors imposants, ajoute Véronique Fellenbock. Elle copréside l'association La Passe, qui représente un millier de compagnies.
Les gens vont plus se mettre à faire que des monologues ou des spectacles avec 2 personnes sur le plateau qu'on monte le matin et on joue le soir.
D'après son enquête de terrain, on comptera l'an prochain 2 fois moins de spectacles que cette année.
Il y a beaucoup d'intermittents qui vont se retrouver au RSA. On commence déjà à avoir des artistes et des techniciens qui ont beaucoup de métiers. Nous dire qu'aujourd'hui, ils recherchent du travail.
Et pourtant, la demande est là. Les salles sont remplies à 90%, précise le Syndéac, premier syndicat du spectacle vivant public. Toutes ces représentations annulées, ce sont donc d'importantes recettes en moins pour les billetteries des théâtres.
On le rappelle, il faudra s'inscrire sur une plateforme dédiée pour circuler autour des sites des Jeux Olympiques à Paris cet été. Et cette plateforme, elle sera opérationnelle le 10 mai prochain. Le ministre de l'Intérieur l'a annoncé ce matin aux Parisiens.
Merci, c'était Diane Berger. Vous allez en entendre parler tous les jours d'ici aux élections européennes. Les sondages quotidiens qu'on appelle les rolling, scrutés comme le lait sur le feu par les politiques. Guillaume Tabar nous explique leur fonctionnement en particulier dans un instant. Puis on parle de notre temps de cerveau disponible et de notre perpétuelle course contre la montre entre tâches du quotidien, subsistance et divertissement. Je reçois l'économiste Pierre-Noël Giraud.